Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous encore une fois. On va partager la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Parce que nous sommes dans un temps particulier.
Vous
savez, nous sommes, je dirais, à la croisée des chemins. Il y a certaines choses que Dieu veut faire.
Amen. Amen.
Et nous voulons entrer dans ces choses. J'aimerais qu'on lise ensemble dans 1 Timothée, pardon, 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on parle souvent des derniers jours, des derniers temps. Et quand il s'agit de ces derniers jours, c'est les jours avant que Jésus ne revienne chercher son Église.
Et
les derniers jours ont commencé depuis que Jésus est monté au ciel. Donc je ne veux pas vous donner des frissons. Parce que ce n'est pas le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour nous impressionner, nous faire frissonner, mais elle est là pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous encourager, pour nous montrer les choses qui sont en train de venir, afin que nous les comprenions et que nous sachions comment réagir par rapport à ces choses. Parce que vous savez, les gens du monde, ils sont emportés par le flot des événements qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Ils sont des victimes. Quand il y a un courant qui commence à couler dans le monde, ils se font emporter par ce courant. Et on le voit notamment en ce moment dans les pays européens, américains, la destruction de certaines valeurs morales, la montée de certains courants qui sont complètement contre Dieu, contre la parole de Dieu, et les personnes se laissent emporter, se laissent séduire, se laissent impressionner par ces choses. Mais nous, nous sommes le peuple de Dieu et nous devons demeurer dans la parole de Dieu avec les valeurs que nous donne la parole de Dieu. Amen. Parce que cette parole est notre référence. Elle est le chemin sur lequel nous marchons. Tout ce que dit la parole est important. Et tout ce qu'elle ne dit pas n'a aucune importance. Et nous devons retenir cette parole pour lui obéir sans compromis, sans excuse. Amen. Parce qu'elle est importante. Parce que quand on se permet de désobéir à la parole de Dieu dans certains domaines, on glisse. Et quand il y a une personne qui glisse, ce n'est pas bon pour elle ni pour sa famille. Mais quand c'est tout un peuple qui glisse, et quand je parle de peuple ici, je parle du peuple de Dieu, alors nous ne sommes plus la gloire de Dieu. Nous sommes des chrétiens, et nous ressemblons aux païens. Nous pensons comme les païens. Nous parlons comme les païens. Nous nous comportons comme les païens. Alors que Dieu a toujours voulu un peuple. Un peuple saint. Un peuple différent. Un peuple qui resplendit de sa présence et de sa gloire.
Vous savez,
quand on resplendit de
Christ,
ce n'est pas difficile de parler de Jésus à quelqu'un. Parce qu'on est crédible. La personne voit que nous sommes différents.
Qu'il
y a quelque chose dans notre vie que lui ou elle n'a pas. Alors que quand nous nous comportons comme les païens, il n'y a pas de différence. Et les contre-témoignages font blasphémer les païens. Les contre-témoignages empêche les païens de recevoir Christ. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de Dieu tout le temps? Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de Jésus tout le temps? Alors qu'en fin de compte, ils sont exactement comme nous. Donc j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Timothée chapitre 3, parce que nous savons qu'il y a certaines choses qui sont en train de se produire, se mettre en place dans les systèmes de ce monde,
et
ce que nous ne voulons pas, c'est être emportés par ces choses. Que ce soit nous, parce que nous sommes encore sur cette terre pour peu de temps. D'ailleurs, dis à ton voisin, tu es ici pour peu de temps.
Alors,
et après, tu rajoutes en disant, alors ne perds pas ton temps. Oui. Donc nous sommes sur cette terre pour peu de temps, mais après nous il y a nos enfants. Ce que nous ne voulons pas, c'est que nos enfants soient emportés par les choses que le diable est en train de mettre en place, et il est en train de mettre certaines choses en place parce que l'Antichrist est proche. Mais la bonne nouvelle pour vous et moi, c'est que si l'Antichrist est proche, Jésus est encore plus proche. Donc ne redoutez pas. Ne craignez pas. Ne soyez pas dans l'angoisse. Mais relevez votre tête. Parce que notre délivrance, elle est proche. Oh, alléluia, on ne sera plus jamais dans ce corps avec toutes ces histoires que nous vivons jour après jour. Mais nous serons avec Jésus dans la gloire. Et si nous sommes fidèles, nous régnerons avec lui. Alors que si nous ne sommes pas, on sera sauvés comme au travers du feu et on sera assis quelque part là-bas où personne ne nous voit. C'est pas parce qu'on a besoin que les gens nous voient, mais ça veut dire qu'on sera inutile et nous voulons être utiles. Vous savez, la valeur de l'homme, elle est dans son utilité et dans les choses qu'elle accomplit. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu avait donné à Adam la domination sur les œuvres de ses mains. C'est la valeur que Dieu avait donnée à Adam. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ou si vous préférez, des temps dangereux. Lis ça. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi, ou si vous préférez, fuis loin de ces hommes-là. Amen.
Amen. Ariko menye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima abanegura iby'Imana badakunda nababo banka kuzura baremenhanya batigarura inkazi badakunda ivyiza abaguranye ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo.
Ici c'est une prophétie que Paul donne.
Il
est en train d'annoncer les choses qui sont à venir. Et vous savez, quand on parle de prophétie, l'annonce des choses à venir, ce n'est pas nécessairement ni forcément l'annonce de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ces choses nous sont dites afin de nous avertir que nous y prenions garde. Parce que la volonté de Dieu n'est pas qu'il y ait des gens aussi horribles que ce que nous venons de lire dans ce passage.
Amen.
Amen. Mais un homme averti en vaut deux. Donc ça nous amène à deux choses. D'abord, c'est faire attention à nous-mêmes afin que nous n'entrions pas dans cette catégorie et surtout faire attention à nos enfants parce qu'il y a vraiment la puissance de l'iniquité qui est en train d'agir violemment dans ce monde. Des choses que nous n'arrivons même pas à concevoir, à comprendre. Comment est-ce qu'on est en train d'en arriver là où nous en sommes? Vous savez, depuis toujours, l'homme, depuis qu'il a chuté en tout cas, l'homme a été plus ou moins dans certains de ses domaines.
Ce
n'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand ça commence à se généraliser, il y a vraiment une pourriture qui s'installe. Et c'est pour ça qu'il est important pour chacun d'entre nous de garder une conscience pure. Vous savez, notre conscience a été purifiée lors de notre nouvelle naissance. Quand nous étions païens, on pouvait penser qu'une chose était bien alors qu'elle ne l'était pas, ou qu'une chose n'était pas bien alors qu'elle l'était. Parce qu'à cause du péché qui régnait dans nos vies, nous n'étions plus vraiment capables, en tout cas dans certains domaines, de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et souvent, ce problème est lié à la culture. Dans certaines cultures, il y a certaines choses qu'on dit que c'est bien, alors que c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. En France, on dit que l'avortement, c'est formidable. Ça fait partie des choses normales. Une femme a le droit de choisir si elle va mettre au monde son enfant ou pas. Si ça lui fait plaisir ou si ça ne lui fait pas plaisir. Parce que c'est parfois même au point. Une femme tombe enceinte et puis elle voit que quand elle va arriver au mois de juillet, elle aura un ventre comme ça. Elle se dit, quand même, je ne vais pas aller à la plage avec un ventre comme ça. Alors elle se fait avorter pour se dire, je vais commencer ma grossesse au mois de septembre. Des fois, ça en arrive à ce niveau-là, où les gens vivent tellement dans le désordre. Une femme se met en ménage avec un homme, elle tombe enceinte, deux semaines après, elle se sépare de cet homme, puis elle en rencontre un autre, elle se met en ménage avec l'autre, sauf qu'elle porte l'enfant du premier. Alors l'enfant, il faut s'en débarrasser parce qu'il fait désordre au milieu de tout ça. Et toutes les femmes qui ne sont pas sauvées en France, ou du moins un grand nombre d'entre elles, revendiquent le droit à l'avortement. On en fait des lois. C'est remboursé par le système de santé. Et si quelqu'un a le malheur de dire, il me semble que l'avortement,
c'est
un crime. Mais on va se faire insulter. On va se faire traiter de fanatique, etc., etc. Donc nous qui sommes nés de nouveau, notre conscience a été purifiée. Garde ta conscience pure. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose de définitivement acquis. C'est comme si je donne une belle robe blanche, bon elle est verte mais c'est pas grave, une belle robe blanche à Alice, c'est pas garanti qu'elle ne va pas la salir ou qu'elle ne va pas faire de tâches. Cette robe blanche nous a été donnée, nous avons été purifiés, nous avons été lavés par le sang de l'agneau, pas par de l'homo ou de l'eau de Javel, par le sang précieux de l'agneau. Nous devons de garder cette robe pure parce que le prix a été payé et ce n'était pas un petit prix. Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Kandi Imana nyina mahoro ibariyo ibeza gose kandi impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira.
Donc notre esprit a été rendu parfait lorsque nous sommes nés de nouveau. Notre conscience a été purifiée. Mais ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose de définitif. Ça peut l'être si nous veillons sur ce qui nous a été donné. Vous savez, les hommes ou les femmes, si vous préférez, en règle générale, ils veillent premièrement sur leur corps, que ce soit les hommes ou les femmes. Je vais vous poser une question à laquelle je vous demande de ne pas répondre. Combien de temps as-tu passé dans la salle de bain ce matin avant de venir ici? Combien de vêtements as-tu essayé avant de te décider à porter ce que tu portes? Ça peut être 30 minutes, une heure, voire plus, surtout pour les dames, quand il s'agit de passer par le maquillage, la coiffure, le choix des chaussures, n'est-ce pas? Combien de temps as-tu passé à te préparer pour venir dans la présence de Dieu? C'est pour ça que je vous demande de ne pas répondre, parce que je sais. Certains, vous avez vraiment pris ce temps parce que vous savez que votre esprit est tellement important. Parce que c'est dans notre esprit que nous rencontrons Dieu. C'est vrai qu'il est dit qu'il faut venir dans la présence de Dieu, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps dans la plénitude de la foi et le corps lavé d'une eau pure, comme nous dit Hébreux chapitre 10 verset 22. Mais le corps lavé d'une eau pure, ça vient en dernier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver non plus quand on vient à l'église. Vous comprenez? Donc souvent, on pense au corps. Mon corps doit être irréprochable dans son apparence. Mais ce n'est pas seulement dans son apparence. Vous savez, c'est avec notre corps, me semble-t-il en tout cas, que nous péchons. Amen. Que ton corps soit gardé irréprochable. Que ton âme soit gardée irréprochable. C'est-à-dire tes façons de penser, tes émotions. Vous savez, je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui en Christ, nous avons la possibilité, nous avons le choix, nous avons la puissance de décider ce que nous pensons et nous avons la force de dire à nos émotions, ok, maintenant ça suffit. Là, tu vas trop loin, tu exagères. Qui sait qu'il exagère de temps en temps ou même assez souvent? Ok, maintenant, qui se dit à lui-même, « Ah, ça suffit maintenant, tu arrêtes. » Comme dirait Audrey. Moi, je me le dis souvent, je dis, « Ah, ça suffit là, ça va trop loin. » D'accord? Et que notre esprit, vous savez, c'est de notre cœur, de notre esprit que viennent les sources de la vie. Je veux revenir dans mon texte de Timothée. Dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux, difficiles, dangereux. Et vous le savez comme moi, qui n'est pas au courant que nous vivons dans des temps dangereux. Je vois que tout le monde est bien averti. D'accord ? Donc, c'est à nous de voir comment préserver nos enfants pour qu'ils ne soient pas au milieu de toutes ces choses en étant semblables au monde et à cet esprit qui anime le monde, qui excite les hommes et les femmes à mal se comporter. Les hommes seront égoïstes. Ça, c'est pas nouveau. Nous savons tous que les hommes sont égoïstes. Les femmes aussi sont égoïstes, mais les hommes sont encore plus égoïstes que les femmes. Et toutes les dames disent... Là, je suis en train de dire de grandes vérités. Donc, c'est à nous de construire quelque chose dans nos enfants. Parce que les enfants sont naturellement égoïstes parce qu'ils n'ont pas conscience des autres. Donc si vous avez des enfants et surtout si vous avez des garçons, des petits garçons, apprenez-leur à ne pas être égoïste. Parce que souvent on voit le petit garçon qui est vautré dans un coin et les filles qui vont le servir. Je vous rappelle une chose. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il faut qu'il y ait une égalité dans la façon de traiter les petits garçons et dans la façon de traiter les petites filles. Si tu dis à ta fille, va me chercher un verre d'eau, dis à ton garçon, va me chercher mes chaussures. Parce qu'il a des bras et des jambes comme les petites filles. Et c'est quand ils sont petits qu'on peut leur apprendre ces choses. Parce qu'une fois qu'on grandit, c'est difficile de changer. Et pour certains, c'est même impossible. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après, les petits garçons, ils vont faire comme ça. Apporte-moi un verre d'eau. Ou ils vont faire comme ça. Ou. Vous savez, quand un enfant naît, il est innocent. Il n'a pas connu le péché. Mais si on ne l'éduque pas, il peut devenir la pire des personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le dit souvent ici à cette église.
Ce n'est
pas vos bonnes. Ce n'est pas vos grooms. qui doivent éduquer vos enfants parce qu'ils savent encore moins bien que vous. Égoïste, ami de l'argent. Vous savez, pour de l'argent, il y a des gens qui sont prêts à faire les pires choses. Et ce qui est très triste, c'est que pour de l'argent, il y a des chrétiens qui sont prêts à se compromettre, qui sont prêts à mentir, qui sont prêts à tricher, qui sont prêts à faire du mal à d'autres personnes, à se fâcher avec des personnes de leur entourage et se fâcher même pour toujours. Juste pour de l'argent. Je vous rappelle que c'est vrai que l'argent, on en a besoin pour vivre tant que nous sommes sur cette terre. Et nous croyons dans la prospérité divine, ça c'est certain. Mais rappelons-nous une chose, c'est que l'argent, ce n'est que du papier. Et que le papier, c'est moins important que ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ou même ton voisin, pour qui Jésus est mort. Amen. Et ça, ce sont des notions que nous devons enseigner à nos enfants. Parce que, comme je vous le dis, il y a une montée maléfique dans ce monde. Et nous ne voulons pas être emportés par ces choses. Et nous ne voulons pas encore moins que nos enfants soient emportés par ces choses. Fanfaron. Qu'est-ce que c'est être fanfaron? C'est entre autres être un frimeur. Des fois, je suis étonnée de voir des petits-enfants qui ont 7 ans, 8 ans.
Les
petits garçons qui sont comme ça, avec les lunettes ici, ils ont 8 ans. Les filles qui ont 8 ans, qui sont là comme des petites pin-up.
Alors,
s'ils sont comme ça maintenant, mais comment vont-ils être dans 5 ans, 10 ans? Vous savez, nous devons enseigner à nos enfants l'humilité et leur dire: tu n'es pas meilleur que les autres, mais tu as de la chance, tu as une grâce de m'avoir comme ta mère, d'avoir ton père comme ton père, parce que nous t'aimons et on veut t'apprendre la valeur de la vie, la valeur des choses. Parce que ce que tu as, c'est gratuit. C'est gratuit pour toi. Mais nous, ça nous a coûté quelque chose. Et ce que nous te donnons avec notre cœur. Tu n'as pas besoin d'aller frimer devant les autres. Parce que tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'as pas besoin de te faire remarquer parmi les autres. Mais sois quelqu'un comme Joseph qui était remarqué par le Père. Et Joseph avait des problèmes à la maison parce qu'il était le plus jeune des enfants, enfin l'avant-dernier, et ses frères faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Il avait des conflits, des problèmes avec ses frères. Mais Dieu regardait Joseph quand il était enfant. Il n'était pas parfait, c'est sûr. Dieu regardait Samuel quand il était enfant. Et que Dieu puisse regarder ton fils et ta fille de la même manière. Et ça, c'est entre tes mains.
Ce
n'est pas entre les mains de ton enfant, c'est entre les tiennes. Parce qu'un enfant, il ne sait pas reconnaître sa droite de sa gauche.
Vous
savez, moi personnellement, je suis née dans une famille qui n'était pas chrétienne. Une famille qui était religieuse. Et mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient. Parce que moi j'ai perdu ma maman quand j'avais 3 ans, donc mon papa faisait ce qu'il pouvait. Mais tous les soirs, il venait dans ma chambre. Même s'il n'était pas sauvé, il me parlait de Jésus. Il priait avec moi. Et ça a vraiment touché ma vie. Ça a changé ma vie, mais pas à ce moment-là, mais plus tard. Amen. Ne faites pas de vos enfants des frimeurs. Hautains. Qui regardent les autres comme ça. Vous savez, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et on n'a pas à regarder qui que ce soit de haut. Et ça, c'est quelque chose qui va monter et monter encore dans ce monde parce que c'est écrit dans la parole. Enseignez à vos enfants l'humilité. Enseignez à vos enfants de regarder les autres comme meilleurs qu'eux. Amen.
Amen.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne valent rien. Blasphémateur. On ne va pas parler de ça longuement parce que franchement, on ne peut pas tolérer que nos enfants utilisent le nom de Dieu en vain. Mais quand il y a quelque chose qui sort de la bouche de votre enfant, qu'il ait 2 ans ou qu'il ait 15 ans, vous devez lui dire, ça ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Je sais que à l'époque de notre enfance, certains d'entre vous, on vous a lavé la bouche avec du savon. À qui c'est arrivé? N'ayez pas peur de moi, ça, pas beaucoup de monde. Mais ça aurait dû nous arriver à tous, un jour ou l'autre, qu'on nous lave la bouche avec du savon, parce qu'on a sali notre bouche par des choses qui ne sont pas bien.
Et
il y a vraiment une chose qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais dire. Il est petit. Il est petit en parlant de notre enfant. C'est pas grave, il est petit. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter et qu'il ne faut jamais tolérer. C'est nous qui fixons les limites. Et si tu ne fixes pas des limites dans la vie de ton enfant quand il est petit, comment est-ce que tu pourras en fixer quand il sera grand? C'est maintenant. Amen.
Amen.
Dès qu'il est petit, qu'il est 3 mois, 6 mois ou même plus, il y a des choses qui sont inacceptables. Ça ne veut pas dire qu'on doit gifler les bébés non plus, comprenez-moi bien.
Mais
il y a des choses où on doit dire non. Moi j'ai une petite fille qui a 8 mois. Et des fois je la regarde, je dis non. Elle a seulement 8 mois. Mais elle comprend et elle arrête tout de suite. Nous devons construire des choses dans la vie de nos enfants. Parce qu'avec cette montée maléfique, si nous n'avons pas construit ces choses, voilà ce qu'ils vont devenir. Et nous ne pourrons pas l'empêcher. C'est maintenant ou jamais. Amen. Rebelles à leurs parents. Nous vivons dans une société où l'on cultive la rébellion. Et ça, on le voit, et c'est très dommage et très triste dans la vie des chrétiens. Tu dis à un chrétien, fais ci. Il ne le fera pas. Ou il le fera seulement s'il en a envie. Comment est-ce que l'Église peut fonctionner quand il y a de la rébellion dans la vie des chrétiens? Comment les familles peuvent fonctionner quand il y a de la rébellion? Et ce que l'on voit très souvent, c'est un des parents dit, fais ça à ton enfant. Et l'enfant fait une crise, il ne veut pas le faire. Et l'autre parent qui dit au premier, mais laisse-le tranquille. Et l'enfant va en tirer avantage. Vous savez, les enfants sont aussi intelligents que les parents. Ils savent voir. Ils savent comprendre. Ils savent profiter de la faiblesse de l'un pour ne faire que ce qu'il a envie de faire. Et je vous assure que la rébellion, ce n'est pas une maladie pour laquelle Jésus est mort, comme la maladie du retard d'ailleurs. La rébellion, c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement destructif. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a placé l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité à notre travail, l'autorité dans les gouvernements, l'autorité spirituelle. Toute autorité vient de Dieu. Maintenant, l'autorité n'est pas toujours bien manifestée, pas toujours bien appliquée, mais l'autorité vient de Dieu pour que les choses puissent fonctionner et fonctionner correctement. La démocratie,
démocratie,
c'est pas un concept biblique. Amen.
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 Donc, rebelles à leurs parents, ingrats.
Inashima.
Qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'ingrat? C'est quelqu'un pour qui tu vas faire quelque chose, quelque chose d'important, quelque chose qui va te coûter et qui est incapable de dire merci, qui est incapable d'avoir de la reconnaissance, de l'admiration. Vous savez, nos enfants, on fait tout pour eux. Apprenez à vos enfants à dire merci. Parce que vous savez, si on n'apprend pas ces choses, voilà ce que font les enfants. Prends ce papier. T'es le parent. Moi, je suis l'enfant. Donne-moi ça. Voilà ce que font les enfants. Vous n'avez pas remarqué? Ils vous arrachent les choses des mains. Ils ne vous disent pas merci. Ils n'apprécient pas. Et ils ne prennent pas soin de ce que vous leur donnez. Et qu'est-ce que font les parents? Quand l'enfant vient de faire ce que je viens de vous montrer, il recommence. En se disant, bon, un ne suffit peut-être pas. Donc, ils en donnent deux. Et qu'est-ce que fait l'enfant? Ça fait que l'enfant ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais satisfait. Il sera ingrat.
Vous
connaissez comme moi cette histoire qui se trouve dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11, vous lirez ça à la maison. C'est l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui viennent voir Jésus pour être guéris. Et Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, il se trouve que les 10 sont guéris. Il y en a un seul qui vient se prosterner devant Jésus et dire merci. Merci parce que tu m'as guéri. Et Jésus va dire, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Ils sont partis. Ils ont laissé. La seule chose qui les intéressait, c'était d'être guéris. Et je vous assure que si on n'éduque pas correctement nos enfants, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Et quelle sera leur vie avec Dieu?
Quelle
sera leur relation avec le Seigneur?
Irreligieux,
insensible.
Insensible
à Dieu. Insensible aux choses de Dieu. Insensible aux autres. Et l'insensibilité, ça rejoint l'égoïsme. Oh, ce que je fais, ça te fait du mal? C'est pas grave tant que ça me fait du bien.
Il n'y
a pas de problème. Vous savez, la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Et l'amour, c'est pas quelque chose de naturel. Je parle du véritable amour. Je parle pas de ce sentiment de bien-être que nous pouvons ressentir par rapport au fait d'être avec une personne ou avec une autre. Mais on parle de l'amour qui se donne, de l'amour qui est sérieux, qui vient de Dieu.
C'est
pas quelque chose de naturel. Insensible, déloyaux. Vous savez, la loyauté, c'est une valeur biblique qui est très rare de nos jours. La fidélité et la loyauté, c'est-à-dire je suis attachée à l'engagement que j'ai pris
avec
une personne. On le voit dans le domaine de l'église. Je suis loyale à mon église, c'est-à-dire que je reste là parce que je sais que c'est Dieu, que Dieu me veut là, que Dieu m'a planté là. Et quand Dieu nous plante quelque part, c'est pas pour aller nous planter ailleurs. C'est valable pour l'attachement à l'église, l'attachement aux serviteurs de Dieu. C'est valable dans le cadre de la famille. On parle de montée diabolique et satanique.
Et
le diable veut détruire les familles, et notamment les familles chrétiennes. Parce que certains d'entre nous, et moi je fais partie du lot, nous ne sommes pas nés dans des familles chrétiennes. Et nous avons dû apprendre les choses de Dieu. Et nous les avons apprises difficilement. Parce que nous avons grandi dans un modèle qui n'était pas un modèle biblique. Alors, quand nous sommes sauvés, nous construisons une famille, nous devons pourvoir à nos enfants à un modèle biblique pour qu'ils puissent aller plus loin que nous, pour qu'ils puissent bénéficier de notre expérience. Vous savez, la famille, ce n'est pas un concept humain. La famille, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et on voit comment le diable s'acharne pour détruire les familles, de manière à ce que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, de manière à ce que les parents se comportent comme les parents du monde. Je t'aime, je me marie avec toi. Je t'aime plus, je te jette à la poubelle et je prends quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez que le mariage, c'est quelque chose de sacré? Qui sait que le mariage, c'est quelque chose de saint, de sacré, quelque chose qui vient de Dieu? C'est une alliance que nous avons contractée devant Dieu et que nous n'avons aucun droit de détruire. Parce que celui qui détruit sera détruit lui-même. Vous comprenez? Nous devons faire attention aux valeurs divines, aux valeurs chrétiennes, aux valeurs qui nous sont décrites dans la parole de Dieu. Nous devons faire attention de ne pas détruire ces choses, mais au contraire de les respecter. Maintenant, si ton conjoint fait n'importe quoi, n'importe comment, nous ne sommes pas du monde. pour nous comporter du monde comme le monde se comporte. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais prie et cherche Dieu, parce que Dieu est plus grand que la personne qui est à côté de toi et qui peut-être se comporte mal. Dieu est plus grand et Dieu est capable de toucher et de changer son cœur. Ne soyons pas des missionnaires. Ayons cette loyauté par rapport à l'engagement que nous avons pris. Et tout le monde dit
amen.
Amen. Nous ne sommes pas comme le monde. S'il ne nous plaît plus, nous avons pris un engagement. Et nous devons rester avec cet engagement autant que ça ne dépende de nous. Déloyaux, calomniateurs, c'est-à-dire qui parlent mal des autres. Si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent comme ces personnes du monde qui sont toujours en train de critiquer, de dire n'importe quoi, vous-même ne parlez jamais mal de qui que ce soit, et quand parfois il y a certains problèmes qui ressortent, n'en parlez jamais devant vos enfants. C'est-à-dire que quand parfois vous devez avoir certaines conversations, faites-le quand vos enfants ne sont pas dans la maison, parce que vous savez comme moi que les enfants sont très forts pour écouter derrière les portes.
Où
ils sont là en train de regarder un dessin animé à la télévision. Et puis vous êtes un petit peu plus loin en train de parler de certaines choses. Vous avez l'impression que les enfants n'écoutent pas. Ils sont en train de regarder le dessin animé comme ça. Et vous êtes en train de parler d'autre chose. Mais comme vous ne parlez pas très fort, l'enfant, il lui manque un ou deux mots. Et tout à coup, il se retourne et il dit, « Ah bon, c'était quoi ?» Vous savez, nous devons protéger nos enfants. Parce que nos enfants sont fragiles. Ils sont faibles, ils sont fragiles. Et on ne veut pas qu'ils deviennent des calomniateurs. Des personnes qui parlent mal des autres. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Vous savez, la trahison, c'est quelque chose qui fait mal. Quand tu es trahi par quelqu'un que tu ne connais pas, tu
te
dis, de toute façon, moi je ne le connaissais pas.
C'était
ni mon ami, ni mon frère. C'était pas quelqu'un qui était proche. Mais quand tu es trahi par un des tiens, imaginez un instant ce que Jésus a dû ressentir quand il a été trahi par Judas, quand il a été renié par Pierre. Et nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, c'est ce que l'on voit de plus en plus aujourd'hui. Vous savez, il était un temps quand quelqu'un se disait chrétien, c'était quelque chose de sérieux. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se disent chrétiens. Ils ont l'apparence de la piété parce qu'ils ont leur Bible sous le bras, même s'ils ne l'ouvrent pas souvent, voire jamais, ils ont la Bible. Ils font « Oh,
Alléluia !»
Ils saluent les personnes au lieu de leur dire « Bonjour, comment ça va ?» Ils disent « Gloire à Dieu !» Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens dans l'apparence. Ils sont chrétiens dans les paroles peut-être, mais certainement pas dans les actes. Je voudrais qu'on lise dans le psaume 78. Psaume 78. Parce que nous avons une responsabilité. Nous devons préparer le chemin pour ce qui va suivre. Vous savez, le roi David, c'est ce qu'il a fait pour son fils Salomon. Il a préparé beaucoup de choses parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui allait construire le temple. Il a préparé de nombreux trésors. Il a donné à son fils un pays qui fonctionnait bien. Quand David a quitté cette terre, il y avait la paix à gauche, à droite, devant, derrière. Il avait préparé correctement la succession. C'était pas comme l'histoire que nous connaissons dans 2 Rois chapitre 4, où cette femme se retrouve veuve et elle vient pleurer devant le prophète Élisée parce que son mari est mort. Et la seule chose qu'il lui a laissée, ce sont des dettes. David a préparé correctement la succession. Et nous devons aussi préparer la succession. Parce que, comme je vous le dis, l'esprit du monde, l'esprit de l'iniquité agit. Et beaucoup de choses maléfiques sont en train de monter. Nous devons le savoir. Et nous devons nous y préparer. Parce qu'on ne pourra pas empêcher ces choses. Amen. On
ne
peut pas empêcher empêcher ces choses, parce que ce sont les signes des derniers temps. C'est la préparation de la venue de l'Antichrist. Psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen.
Amen. Bwoko bwanje, nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje, mubangire amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Ndateranura kanwa kanje nc'imigani ndavuga amajambo apfinze ya kera ivyo twumvise tukamenya ivyo basogokuruza batubariye ntituzobihisha abuzukuruza babo tuzobwira abigihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze kuko bashimangiye igishinga ntahe mu ba Yakobo yashizeho icagezwe mu Bisirayeli icyo yageze basogokuruza ngo baze bayibarire abana babo kugira ngo abigihe kizoza baze babimenye nibo bana bazovuka ngo nabo baze bahaguruke babibarire abana babo kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire iby'Imana yakoze ariko ngo bitondere ivyagezwe vyayo boye kuba nkabasekuruza gwarunganwe gw'ibigaba kandi gwabagarariji urunganwe rw'abati tunganiriza imitima yabo itayoboka Imana.
Nous devons dire à nos enfants
tugwiza kubwira abana bacu
les louanges de Dieu,
amashimwe y'Uhoraho,
ce que Dieu a fait,
ivy'Imana yakoze.
Qui est Dieu?
Imana tuti ninde?
Nous devons le faire.
Amen. Amen.
Et nous vous avons donné les moyens dans cette église de pouvoir le faire.
C'est
entre autres pour ça que nous avons mis en place le Facebook. Parce que dedans, il y a ce que vos enfants ont entendu ce dimanche. Que vous repreniez ce qu'ils ont entendu et que vous rajoutiez quelque chose qui vienne de votre cœur. Parce que vous, vous connaissez vos enfants et vous, j'espère que vous savez comment leur parler.
Et
j'espère que vous leur en parlez. Vous savez, une des choses qui va permettre à cet esprit d'iniquité de prendre plus de place. Une des raisons pour laquelle ces choses sont en train de se mettre en place. Comme je vous le disais, c'est que la famille est détruite. Et pourquoi la famille est détruite? Parce que les parents ne sont jamais là. Ils
ne
sont jamais là. Et je sais qu'en France, c'est arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient. Parce qu'un salaire suffisait pour voir à toute une famille. Mais à partir de cette guerre mondiale, les femmes ont été obligées de travailler. Et de ce fait, eh bien, il n'y a plus personne pour s'occuper des enfants. Parce que les enfants, on les met à l'école le matin. On les récupère le soir. Et le soir, on est tellement fatigué qu'on n'a pas vraiment de temps pour s'occuper des enfants. Et personnellement, je ne suis pas anti-féministe. Comprenez bien, ça serait d'ailleurs ridicule parce que moi-même, je suis une femme. Mais une des raisons aussi pour lesquelles il y a autant de chômage, c'est pas la seule, bien sûr. C'est parce que les femmes, toutes les femmes travaillent. Si... Attention, ne l'interprétez pas d'une façon tordue. Mais si c'était seulement les hommes qui travaillaient, il y aurait peut-être beaucoup moins de chômage. Moi, je ne suis pas contre le fait que les femmes travaillent. Je suis contre le fait que les femmes ne s'occupent pas de leurs enfants. Je suis contre le fait que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que les hommes, ça les ennuie de s'occuper de leurs enfants. Voyez, des fois, un homme, il y a un petit bébé, il ne sait même pas comment le prendre, ni par quel bout le prendre. Il dit, bon, quand il aura grandi, on verra. Il a peur de le casser. Il ne peut pas lui donner son biberon. Encore moins le bain. Et s'il faut l'habiller ou lui changer sa couche, ça se met comment ce truc-là? Vous savez, les femmes ne sont pas plus intelligentes que les hommes. Si les femmes savent le faire, les hommes peuvent apprendre aussi. Et ce n'est pas un déshonneur. Parce que ce n'est pas quand ton enfant a 10 ans que tu pourras commencer à tisser une relation avec lui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Même si tu prends ton enfant qui est tout petit et que tu lui dises, je suis content que tu sois mon fils, que tu sois ma fille, je t'aime, et tu poses ta main sur sa tête et tu dis, Seigneur, merci de me l'avoir donné. Apprends-moi et montre-moi comment l'éduquer. Vous savez, si on ne sait pas, Dieu sait comment faire et veut nous le montrer. Alors qu'on est tout le temps occupé à mille choses, on travaille, on va visiter des personnes et pendant ce temps-là, personne ne s'occupe des enfants. Ça a commencé en Europe, aux États-Unis. Et je sais que même ici, les parents ne sont pas toujours là pour leurs enfants. Et vous connaissez ces histoires avec lesquelles on fait des plaisanteries, mais au fond, ce n'est pas drôle du tout. Certains parents, bien sûr, inconvertis, il y a certains pères Dans certains quartiers, vous connaissez ces histoires. Ils ne sauraient même pas vous dire combien ils ont d'enfants. Ils ne savent pas. Je parle des enfants légitimes, des enfants à la maison.
Vous
connaissez cette histoire du directeur d'école qui appelle un père et qui dit, ton fils tel. Et le père qui répond, ah, je ne savais pas que j'avais un fils tel. Vous savez, nous avons une responsabilité de dire à nos enfants les louanges, la puissance, les prodiges que Dieu a opérés. On doit présenter notre Dieu comme un super-héros. Parce qu'au moins, lui, il existe. Parce que si on raconte à nos enfants des histoires de Superman, Spider-Man, Batman et tous les autres man, on parle de choses qui n'existent pas et de personnes qui n'existent pas. Mais si tu montres à ton fils combien tu admires Dieu et que tu lui dis, tu sais, en plus, un jour, Jésus, il a guéri un lépreux. Quelqu'un qui est venu se traîner à ses pieds et qui lui dit, qui l'a supplié, dit, c'est dans Marc chapitre 1 verset 40, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ça a touché son cœur. Et il lui a dit, je le veux, sois pur. Et l'enfant a été purifié. Et le lépreux a été purifié. Est-ce que c'est difficile de dire ce genre de choses? Mais pas du tout, il suffit de commencer. Quand tu commences, tu vas avoir une histoire et après tu auras une autre et après tu auras une autre. Et ton fils, il dira, moi je veux de ce Dieu-là. Je veux le connaître. La louange, la parole, des témoignages de puissance. Qu'est-ce que ça va créer dans le cœur de ton fils et de ta fille? La crainte et le respect. La crainte et le respect. Et ça va l'aider à mettre sa confiance en Dieu. Amen. Vous savez, pour nous, certains d'entre nous qui ne sommes pas nés dans des familles chrétiennes, nous savons à quel point le diable a essayé de nous détruire. Pour certains d'entre nous, c'était avant même notre naissance. Puis, dans notre enfance, essayer de nous détruire, de nous tuer, de nous tuer physiquement, nous détruire à cause des circonstances. Et nous avons dû passer par un temps de guérison dans notre vie. Parce que certains d'entre nous, on vient de très loin d'avoir la guérison de notre cœur. Un temps de restauration. Et je vous assure que la restauration d'une vie, ça ne se fait pas en 5 minutes. Nous avons dû passer par des temps de transformation. Nous avons eu besoin d'être éduqués dans le Seigneur, recevoir de la compréhension. Vous savez, quand on comprend les choses d'une certaine manière, ça va nous prendre beaucoup de temps pour les comprendre d'une autre manière. Alors que vos enfants, ils peuvent apprendre du premier coup. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, de désapprendre pour réapprendre. Amen. Le verset 8 dit, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
Voyez comment va s'écrouler, guarunga nous guibigaba. Kandi rw'abagarariji urunganwe rw'abatitunganiriza imitima yabo itayoboka Imana.
on peut avoir les plus grandes promesses de Dieu.
Si
on a un cœur indocile et rebelle, on ne les verra jamais. Jamais s'accomplir. Le peuple d'Israël avait reçu la promesse de rentrer dans la terre promise. Ils n'y sont pas rentrés parce qu'ils étaient indociles et rebelles.
Ésaïe
chapitre 1 verset 19 nous dit que si tu es docile, si tu as de la bonne volonté, tu mangeras le meilleur des productions du pays. On peut le mettre dans l'autre sens. Si tu es indocile, si tu es rebelle, tu ne mangeras rien du tout. Et la docilité, la soumission, l'obéissance, c'est tout à fait contraire aux valeurs du monde actuel dans lequel nous vivons. Mais c'est une valeur de la parole de Dieu qui agit comme une protection. Parce que quand tu es en train de faire ce que Dieu veut, tu as de la tranquillité dans ton cœur et tu sais que Dieu a sa main sur ta vie. Alors que si tu es en train de faire n'importe quoi, n'importe comment, tu t'exposes. Et ici dans ce psaume, il est dit clairement que nous devons apprendre à nos enfants à marcher avec Dieu, à obéir à Dieu, afin aussi d'avoir un cœur ferme. Un cœur ferme. Il y a tellement de personnes dans ce monde qui n'ont pas un cœur ferme. Un jour, ils te disent, oui, vraiment, je suis d'accord, je vais m'engager ici, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils le font trois fois. La quatrième, ils ne sont plus là. Avoir un cœur ferme, c'est quelque chose que nous devons construire. Un esprit fidèle. Et en fait, dans ce psaume, vous allez le lire et vous finir de le lire à la maison, on voit les conséquences catastrophiques du fait de ne pas avoir appris aux enfants qui est Dieu, comment le louer, comment marcher avec lui. Ça a produit une race de rebelles, d'idolâtres, des personnes qui ne sont pas rentrées dans les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe chapitre 22, et on va finir avec ce verset. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et quand on dit instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si tu l'instruis dans des mauvaises choses, en grandissant, il ne s'en détournera pas. Amen. On peut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il tant de personnes qui sont adultes et qui sont menteurs? Ils ne sont pas nés menteurs. Ils ont appris le mensonge au travers des parents, au travers des autres membres de la famille, à l'école, d'une manière ou d'une autre. Et une fois qu'ils sont devenus adultes, ils ne s'en sont pas détournés. Vous le savez comme moi. Mais quand on apprend la vérité, la bonté, la sensibilité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tu apprends ça à ton enfant. Mais en grandissant, il ne s'en détournera pas. Alors que si tu lui apprends Le mensonge, la calomnie, c'est-à-dire mal parler des autres, la tromperie, la manipulation, l'hypocrisie, le vol, la jalousie, les querelles et toutes les autres choses que vous connaissez. Mais quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Et moi, vraiment, je veux et je sens que ce n'est pas moi qui veux, c'est Dieu qui veut. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Jésus a dit cela. Que les